Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Depuis 2009, on va commencer à mettre une plaque comme dans les restaurants. Depuis 2009, le Rendez-vous Tech est là pour vous résumer chaque semaine toute l'actu tech, internet et gadgets. Nous en sommes à l'épisode numéro 396, nous sommes en mars 2021. Je suis Patrick et si cet épisode est là, si cette émission continue à exister, c'est grâce au formidable Patriotes, les gens qui soutiennent financièrement l'émission, les gens qui lui permettent de continuer, et notamment Alain Leclerc, Romain Dupont, Kevin Briand, Martial Chauvert, Nicolas Leclerc, Reg Dobey et les producteurs Léthargique Panda et Rémix. Merci à vous tous, en particulier bien sûr aux producteurs, mais en réalité, c'est un grand merci général que j'envoie à toute la communauté de Patreon qui est là et sans laquelle je pense que cette émission n'aurait pas connu la longévité et ne connaîtra pas évidemment la qualité qu'elle a. Enfin, je dis la qualité, c'est un petit peu présomptueux peut-être, mais la raison pour laquelle je peux me permettre de dire ça, c'est que je ne suis pas seul dans cette émission. Là, ça serait un petit peu, comment dire, un petit peu délicat de dire qu'il y a une certaine qualité, mais comme mes invités d'immense qualité sont là aussi, eh ben, on peut le dire. On va vous parler aujourd'hui de réalité augmentée et de technologie qui va sous-tendre ces casques qui vont arriver bientôt de côtés différents, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On va parler de lois qui vont déterminer ce qu'on peut faire en voyageant avec le virus, enfin de lois de certificats avec le Covid. On va parler de pub et de tracking, bien sûr, de Instagram qui drague les moins de 13 ans. Oui, vous allez voir, c'est un petit peu inquiétant, mais pour m'aider à décortiquer tout ça, on a d'une part Gaëlle qui est de retour parmi nous. Comment ça va, Gaëlle ?
Bonjour Patrick, eh bien écoute, ravi d'être là et toujours de grande qualité avec toi. Donc je l'ai dit, moi j'ai le droit de dire que c'est de grande qualité pour toi.
Merci beaucoup. Donc Gaëlle est là avec nous et on a aussi un invité qui est là pour la première fois. C'est Frédéric Stoj... Alors est-ce qu'il faut le lire à la polonaise ? Je ne sais pas si c'est un nom polonais, mais Stojiszewicz ou alors
Stoji... C'est comme tu le sens vraiment.
D'accord.
C'est Frédéric Stojiszewicz en français, mais sinon c'est Stojiszewicz. Non, c'est d'origine serbe.
D'origine serbe, très bien. D'accord. Eh bien écoute, tu vois, je ne connais pas bien mes pays européens. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour que les auditeurs sachent d'où tu viens ?
Bonjour tout le monde, bonjour Gaël, bonjour Patrick, merci encore pour cette première invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être présent avec vous. Moi, globalement, en fait, je suis le fondateur du site chromebooklife.com. Il y a un peu plus de 4 ans et demi, je suis tombé amoureux des Chromebooks hein, et de la philosophie autour des usages cloud, hein, puisqu'en gros, 90% de mon temps, je le passe principalement sur un navigateur web. Et de fil en aiguille, bah, j'ai continué à travailler dessus, à monter une chaîne YouTube Tech Live avec des reviews de Chromebook. Et tout récemment, challenge pour sortir de la zone de confort en début 2021, j'ai lancé, on va dire, une émission Chromebook on Live, où une fois par mois, je fais un live avec ma communauté sur YouTube. Et pour le coup, c'est hyper inédit et j'adore faire ça. Donc voilà, et à côté, alors j'ai aussi une... C'est pas ma profession, hein, ça reste des activités vraiment extra-professionnelles. Mais autrement, je travaille vraiment dans la distribution bah, du coup, des Chromebooks sur le marché français et principalement destiné aux entreprises. Grâce, on va dire, à la passion, j'ai réussi à trouver un job, on va dire, qui est plus cohérent avec mes attentes.
Super. Et donc, c'est vrai qu'on nous reproche parfois de ne pas assez parler de cette vague Chromebook qui déferle sur le monde. Et c'est vrai qu'on parle peu souvent de cette plateforme, mais qu'elle est pourtant très présente. Et je suis content. Alors, on n'a pas de sujet spécifique sur les Chromebooks aujourd'hui, mais je suis content que tu puisses nous apporter ton éclairage sur cet angle, sur la tech en général. Mais du coup, est-ce qu'on peut, en un instant, en quelques minutes, parler un petit peu des Chromebooks et des avantages qu'ils présentent? On sait qu'ils sont très populaires dans l'éducation, notamment, mais pas que. C'est vraiment quelque chose qui est en lame de fond et qui continue à prendre des parts de marché, c'est l'impression qu'on en a en tout cas, ou alors est-ce que ça s'est quand même calmé un petit peu depuis quelques mois, quelques années? Quel est l'état du Chromebook en fait, peut-être dans le monde, mais surtout en France?
Alors, avant de parler du Chromebook, c'est vrai que j'avais remarqué que dans cette émission, vous étiez tous des Apple fanboys. Et à chaque fois, j'avais une larme qui coulait dès que vous parliez des iPhones et jamais de parler de Chromebook. Mais enfin, j'en plaisante.
Des iPhones et des tablettes. C'est vrai qu'on on fait beaucoup de place aux tablettes et aux iPads. Ouais. Mais quand on parle d'alternatives aux ordinateurs classiques, il y a les tablettes d'une part, bien sûr. Et puis, il y a les Chromebooks aussi qui sont très populaires, ouais.
Les Chromebooks, disons, enfin, si on doit résumer les avantages, c'est évidemment, enfin, c'est le fait qu'on est en fait sur un système d'exploitation, donc Chrome OS, qui est très light, qui est très sécurisé et qui permet donc d'avoir une expérience utilisateur, on va dire, optimale sur des usages très orientés cloud. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez démarrer votre Chromebook alors ça dépend évidemment du modèle, mais entre 5 et 10 secondes, vous accédez directement à Chrome et à vos contenus web très rapidement, lorsque vous le sortez de veille aussi. Vous n'avez pas les fameux écrans bleus que vous allez retrouver dans un environnement Windows que j'ai pu retrouver dans mon monde professionnel maintes fois, surtout le matin quand on arrive et que malheureusement, y a des mises à jour aussi qui doivent se mettre en place. Tout se fait en arrière-plan assez intelligemment, je trouve.
C'est un peu le même cahier des charges qu'une tablette, mais en encore plus léger finalement. Ça répond aux mêmes besoins, mais de manière différente. J'ai l'impression.
Alors, on aura forcément cet usage très tablette parce qu'il y a la convertibilité qui est souvent présente dans les modèles avec l'écran tactile. Hein. Donc, en fait, on va vraiment avoir un usage tablette parce qu'on si on a le Google Play Store qui est présent. Cela dit, non, ça a vraiment une orientation. Enfin, on est un peu dans un univers un peu hybride. Donc, très orienté tablette, mais en même temps orienté usage bureau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Chromebook, on peut l'utiliser en tant que personne, enfin en particulier pour du divertissement classique, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que je le vis assez bien. Mais pour cette partie, on va dire, je connais assez bien, pardon, sur cette partie un peu chiffre, Chrome OS, fin 2020, et c'est des chiffres qui viennent d'IDC, est devenu deuxième plus gros système d'exploitation au monde. Suite notamment à Covid, au remote working.
Quand tout le monde s'est mis à acheter des appareils bon marché, les Chromebooks se sont encore mieux vendus, oui, je peux l'imaginer.
Voilà, donc il y a l'avantage effectivement du côté prix qui est plutôt bas en ce qu'on appelle le TCO, parce que puisqu'on a des usages cloud, on n'a pas besoin de la dernière carte graphique pour faire du cloud, clairement, sachant qu'aujourd'hui, on a aussi les solutions un peu de cloud gaming, hein, donc tu as déjà partagé dans l'émission, qui finalement sont les meilleures plateformes de jeux sur Chrome OS aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on fera un focus sur le sujet, hein. Je ne veux pas non plus t'embêter avec ça.
Non, mais c'est très intéressant. J'imagine bien. Et donc, il y a effectivement la pandémie qui a poussé le Chromebook effectivement, comme solution plus légère et moins onéreuse pour un certain nombre de marchés, ce qu'on peut comprendre. La chatroom, qui est évidemment toujours présente et toujours active, pose une question qui est, à mon sens, un test ultime de ton amour du Chromebook. Il demande, est-ce que maintenant tu es en train de participer à l'émission, on le fait par Discord, par ton Chromebook, ou est-ce que tu le fais autrement?
Eh bien écoute, je suis sur un Chromebook,
Ok, bravo! Tu as passé le test très bien, tu peux rester dans l'émission. J'espère que la chatroom est satisfaite, magnifique. C'est vrai qu'on peut faire tellement de choses par le web, tu lances Discord sur le site web, il a accès au micro et même à la caméra, même si nous on s'en sert pas, et ça fonctionne très bien, donc... Merci, très bien Fred. Écoutez, on va parler de système d'exploitation du futur pendant quelques instants en évoquant la réalité virtuelle, peut-être un peu la réalité augmentée aussi. Pardon, c'est l'inverse. On va parler un peu de réalité virtuelle, mais surtout de réalité augmentée, avec trois news qui ont attrait à la chose. D'une part, Facebook est en train de travailler sur une sorte de bracelet qui capte les pensées que vous envoyez à votre bras pour détecter les mouvements, en quelque sorte. C'est un prototype de recherche qui est encore loin de l'utilisation réelle, de l'utilisation en pratique. Ils ne sont pas en train de sortir un produit, en gros, mais ils sont en train de développer ce prototype que vous mettez à votre poignet et qui permet donc à l'ordinateur, au sens large, de détecter les mouvements de vos mains, de vos doigts, en captant les impulsions, différents types d'impulsions, j'allais dire les impulsions électriques dans vos nerfs. Je ne sais pas si c'est spécifiquement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ça détecte vos mouvements. Et ils ont très vite insisté sur le fait que ce n'était pas Facebook qui lisait vos pensées, mais que c'était simplement l'équivalent d'un clavier, finalement, et je pense que c'est une vision qui est juste. C'est l'équivalent d'un clavier, puisque ça transforme vos mouvements en communication avec l'ordinateur, ce qui n'a pas empêché tous les journalistes malicieux de titrer « Facebook est en train de lire vos pensées ». J'ai trouvé ça assez intéressant. Min-Chi Kuo a également... Alors, il fait des millions de rumeurs sur Apple en ce moment, Min-Chi Kuo. Je vous en épargne une énorme partie. Donc, si vous pensez qu'on parle trop d'Apple, sachez qu'il y a bien 90% des rumeurs que je passe à l'as. Mais celle-ci est intéressante. Il dit que Apple serait en train de développer un système de traquage de l'œil, de la pupille, enfin du globe oculaire, pour d'une part lire l'iris et pouvoir l'utiliser pour de l'identification dans son système de réalité augmentée ou de réalité virtuelle à venir dans quelques années. Donc c'est d'une part une question d'identification, mais également peut-être que ça peut servir pour l'interface également, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour, avec les mouvements de l'œil, déplacer, enfin choisir des éléments dans l'interface, etc. etc. Et il y a une autre information dont on a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu, mais qui a trait à la réalité virtuelle en général, c'est l'annonce que Sony est en train... Enfin, l'annonce, ils avaient déjà annoncé qu'ils étaient en train de développer un casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, et on le savait déjà, mais ils semblent être en train d'accélérer la cadence puisqu'ils ont dévoilé leurs manettes, qui ne sont pas très très différentes des manettes de l'Oculus Quest ou de l'Oculus Rift. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui est important, mais ce qu'il faut noter, c'est que ça veut dire qu'ils sont peut-être plus proches d'une sortie, on peut imaginer début 2022 peut-être, plus proches d'une sortie qu'on aurait pu le penser par le passé. On se disait, ça ne va pas être avant 2023-2024. Là, une sortie en 2022, autour de 2022, ne serait pas non plus complètement improbable. Ce qui est important pour la réalité virtuelle dans son ensemble et par ricochet la réalité augmentée, puisque ça veut dire qu'on est vraiment dans une dynamique de marché qui existe encore entre toutes ces entre les recherches pour la réalité augmentée chez Facebook et Apple, le fait que PlayStation soit à fond dessus encore, ce qui n'était pas certain, ça veut dire qu'il y a vraiment une dynamique qui n'est pas morte ou qui ne s'est pas significativement ralentie au-delà de ces, on va dire, deux dernières années, comme on aurait pu le penser. Là, on a une progression technologique qui va continuer. Je m'arrête en particulier sur la question de l'interface, parce que je crois que c'est vraiment un problème qu'il va falloir résoudre avec ce type de technologie, avec la réalité augmentée comme la réalité virtuelle. On ne peut pas avoir une souris ou un clavier dans les mains, et donc il faudra trouver d'autres solutions pour contrôler l'interface qu'on va voir dans le casque. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça, que ça soit Gaël ou Fred, mais peut-être qu'on peut commencer par Gaël. C'est des trucs qui t'enthousiasment, ou le fait de contrôler par la main ou par l'œil ou ce genre de choses, tu attends la réalité augmentée, ou pour toi c'est un gadget qui va nous fatiguer encore plus inutilement?
Ça dépend pour quel usage. Je pense que professionnellement, ça a certainement des intérêts et des applications extrêmement utiles, la réalité augmentée. Oula,
on a beaucoup de parasites, Gaël, sur ton micro. J'ai l'impression que ça gratte sur un vêtement ou quelque chose comme ça.
Là, ça y est, je tiens mon micro comme...
comme un présentateur des années 90, quand on disait avec Fred, avant de lancer l'enregistrement.
Du coup, ouais, je pense que ça dépend de l'usage. En termes de professionnel, je pense qu'il va y avoir énormément d'applications extrêmement utiles pour ça. En termes de jeux, certainement, ça pourra. Il y a des jeux qui vont se développer dessus. Moi, je vois, on a du coup un Oculus Quest depuis Noël, avec lequel on a joué au tout début. On s'est bien amusé, et puis finalement, on l'a vite.
Il a fini au placard.
Ouais, ça finit déjà au placard, c'est vite délaissé. J'en vois pas un usage très. Voilà, je pense que pour l'instant, en tout cas, j'y ai pas vu un usage. Et surtout, en fait, le point, je pense qu'il est vraiment sur le côté physique, et je ne sais pas ce qu'il en sera avec les outils qui sont proposés là, avec l'œil, la main, les courants électriques qui parcourent le corps, hein, justement, parce que c'est effectivement du courant électrique. Non, mais c'est vraiment du courant électrique qui parcourt nos nerfs, donc je pense que tu peux pas l'utiliser longtemps. Je vois un casque, honnêtement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes,
t'as mal à la tête, t'as envie. C'est ça qui, à mon avis, est la clé dans toutes ces histoires, c'est qu'ils veulent faciliter l'utilisation, et le fait de juste mettre un bracelet qui sera sans doute de taille plus réduite que ce qu'on voit dans les prototypes aujourd'hui, ou d'avoir un contrôle par l'œil ou ce genre de choses, ça facilite. Et si les lunettes sont moins encombrantes également que ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça peut régler la question de l'usage. Ensuite,
ouais, mais
au-delà
de ça, est-ce que ça pose pas des problèmes quand même enfin, internes ? C'est aussi parfois par rapport à ton équilibre. Effectivement, comme on dit, ça passe par j'y connais rien, hein, côté médical, mais est-ce que effectivement, c'est pas des choses qui peuvent créer des soucis d'ondes, etc. Je pense qu'il va falloir qu'ils règlent d'abord toutes ces questions-là avant de pouvoir le mettre sur des usages, notamment pour les jeunes qui ont quand même leur cerveau qui est pas terminé. Enfin, est-ce que du coup, tu mets des outils ? Non, mais c'est vrai.
Ouais, non, mais complètement, oui.
Donc, je pense qu'il y a d'abord tout ce point médical à traiter, et ensuite, effectivement, les outils à faire en sorte que ça soit pas trop lourd, que ça soit le plus simple possible, et puis après, y trouver des usages. Parce qu'aujourd'hui, les usages, on les a pas. C'est le troisième point, c'est de trouver.
C'est le problème principal, ouais. Je pense que la réalité augmentée aura plus d'usages professionnels ou moins ludiques que la réalité virtuelle. Mais Fred, du coup, est-ce que contrôler ton. Enfin, moi, j'avoue qu'une interface qui puisse suivre les mouvements de mes doigts facilement, je l'imagine pour la réalité virtuelle augmentée, mais peut-être même pour l'ordinateur classique, hein, pour complémenter la souris, pour certains usages, ça peut être utile. Ça te fait rêver ou c'est un truc qui... Toi, t'es juste sur tes Chromebooks et ça te suffit ?
Non, quand même pas. Non, je suis très ouvert, hein, et technophile plus largement, mais moi, je vais plutôt revenir sur la partie réalité augmentée. Hein, j'en ai fait l'expérience. Alors, je parle pas des lunettes en tant que telles, hein, mais lorsque vous utilisez, je sais pas si vous avez utilisé Google Maps, notamment en réalité augmentée, donc ce qui signifie que lorsque vous levez en fait votre téléphone, vous avez en fait la caméra qui va capter tout l'environnement réel en face de vous, et Google va ajouter typiquement donc des éléments virtuels pour vous indiquer, tiens, il y a un café, ou vous dire lorsque vous devez tourner à gauche, à droite. Le faire en réel, donc à savoir lever son téléphone comme si on était en live, c'est pas très évident. Donc j'imagine qu'au travers de lunettes couplées à un équipement qu'on ne sent pas, ou en tout cas qu'on sent un peu moins, donc j'imagine le bracelet, ça pourrait être intéressant. Par contre, encore une fois, c'est comment on valide les choses. Enfin, j'arrive pas en fait à percevoir concrètement comment ça va se passer. J'avais là, je pense aussi à la pensée, mais je couple aussi avec l'eye tracking. Typiquement, j'avais testé dans la gamme Predator d'Acer l'eye tracking il y a à peu près, je crois, 4 ans avec la technologie Tobii, et ça marchait très très bien. Hein. Mmh. Mais depuis, on n'en a pas entendu parler, et j'ai pas eu d'application dans le monde du jeu vidéo.
C'est vrai.
Encore une fois, comment inciter, je pense aussi, les éditeurs et les développeurs à aller là-dessus et à rendre, tu vois, l'eye tracking comme une key feature, quoi.
L'un des avantages de la réalité augmentée, c'est que tu as rarement ton clavier en face des mains quand tu es en train de te balader dans la rue, donc tu es obligé d'utiliser un autre type de périphérique d'entrée. Je peux imaginer, par exemple, tu regardes un élément d'interface avec l'œil et puis tu écartes les doigts comme tu fais un pinch ou zoom sur ton téléphone, et ça fait quelque chose. Ou alors tu tapes deux doigts ou ce genre de choses, comme tu pourrais faire, ça fait des mouvements de piano, quoi. Tu tapes un doigt sur l'autre et puis tu vas très très vite, donc on comprend plus ce que tu fais. Moi, je peux imaginer que ça pourrait donner quelque chose. Et même pour les pour les ordinateurs plus classiques, ouais, ça pourrait être utilisable. Mais quand il n'y a pas de motivation à utiliser ces nouveaux types d'interface, c'est sûr que c'est moins... Bah, c'est pas développé. Alors que là, pour la réalité augmentée, ça serait nécessaire. Et je me demande si la réalité augmentée ne sera pas un vecteur de modernisation de ce genre de choses plus important que la réalité virtuelle. Que la réalité virtuelle a plus de potentiel pour le jeu vidéo, mais moins de comment dire, et une application un peu plus limitée. Mais bon.
On verra. Juste pour terminer, pour rejoindre ce que disait Gaël, notamment, tu sais, par rapport au port de casque, enfin, aujourd'hui, la réalité virtuelle, on est quand même sur un casque qui est assez lourd, où là, effectivement, avec la réalité augmentée, on est censé avoir des lunettes plus ou moins légères, donc ce sera plus facilement, en tout cas, utilisable pour un particulier ou même dans le monde professionnel pour pouvoir effectivement profiter de toute la partie AR. Ouais, et il y a cet aspect, je pense, équipement.
Je crois, effectivement. Deux sujets sur les lois et les aspects légaux. On parlait il y a quelques semaines de la question du certificat vert numérique qui devait permettre les voyages dans l'Union européenne dans la période de transition où la vaccination était en cours. Eh ben, on a une réponse à une question importante qui avait été posée parce que le gouvernement français avait déterminé que la vaccination ne serait pas obligatoire et on se demandait du coup comment est-ce que le certificat vert pourrait fonctionner dans un contexte où la vaccination n'est pas obligatoire. Eh ben, on a la réponse. En fait, le certificat pourra faire état de la vaccination, bien sûr, et aussi du fait qu'on a eu le Covid et qu'on s'en est remis, ou alors du fait qu'on a reçu un test avec un résultat négatif, avec une date, bien sûr, j'imagine. Mais donc, ça veut dire que pour la validité du certificat pour pouvoir voyager, on peut soit présenter son certificat de vaccination, soit présenter un résultat de test négatif qui serait à peu près équivalent sur une période donnée. Donc voilà, c'est la question qu'on avait posée, trouve sa réponse là-dedans. Et l'autre sujet qui est intéressant, c'est une poussée. Alors, je sais que c'est un petit peu une plaisanterie quand on dit désormais, quand on parle de start-up et de start-up nation, mais l'Union européenne essaye de pousser son secteur tech et on a vu pendant la pandémie à quel point c'est important. Il se trouve que le commissaire européen Thierry Breton a initié, ou en tout cas est en train de valider, une proposition qui me paraît intéressante, qui serait d'augmenter l'attractivité et la facilité des startups en Europe en faisant deux choses. D'une part, en facilitant l'obtention de visas pour les travailleurs qualifiés qui pourraient être employés dans ces startups, donc pour pouvoir les attirer du monde entier, attirer les talents du monde entier, et d'autre part, faciliter le processus de création de sociétés, l'idéal étant qu'une société puisse être créée en un jour pour moins d'une centaine d'euros, et à ce stade, il y a 25 pays de l'Union européenne qui ont signé le cadre, donc bon, quasiment tout le monde est pour, donc voilà, ça risque d'arriver, et c'est vrai que ça peut, ça peut faire sourire certains de se dire on se préoccupe des startups, mais c'est vrai que la question de la tech est évidemment essentielle et dans un monde où les choses peuvent dérailler assez vite, il est important qu'on ait, au-delà même de la question de la pandémie, il est important qu'on ait nos champions de la tech et jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas vraiment généralisé, on va dire. Donc peut-être que ça pourrait être une petite pierre en plus qui pourrait aider. Donc, sur ces questions légales, le certificat et les startups, Startup Nations, Startup Union, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Gaëlle, vas-y, dis-nous tout.
Non, juste sur le certificat, je refais juste un petit commentaire parce que je sais que c'est un débat qui est assez hystérisé. Et c'était rappelé en fait que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, le fait d'avoir à être vacciné pour aller d'un pays ou à un autre. Enfin, on l'a vu, en général, dans certains pays africains, il faut être vacciné pour la fièvre jaune depuis longtemps. Et quand j'entends tous ces débats autour de « Oh mon Dieu, on nous traque », au travers de ces certificats. Voilà, c'était juste pour redifférencier les choses entre les applis Stop Covid qui sont là pour tracer les cas contacts et faire la différence entre un certificat vaccinal. Voilà,
je sais pas si... Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. Moi, je dirais que, je sais que certains auditeurs ne vont pas aimer cette idée, mais moi, je dirais que l'obligation de la vaccination ne serait pas forcément une mauvaise chose. Je peux comprendre pourquoi on ne le fait pas. Le vaccin est encore jeune et même si on a quand même peu de risques, je peux comprendre pourquoi on ne le fait pas. Mais si moi, j'avais mon mot à dire là-dessus, je crois que je pencherais plutôt du côté de écoutez, on vaccine tout le monde et puis c'est terminé.
Effectivement, à partir du moment où on te donne en plus l'option d'avoir un test négatif pour vous aider.
Non, mais voilà, c'est ça la question. C'est est-ce qu'il faut. Mais là, on sort du cadre de la tech, hein, donc on ne va pas traîner.
Non, là, c'est un débat politique, on est d'accord.
Voilà. mais oui, est-ce qu'il faudrait rendre ce vaccin obligatoire? Moi, je pense qu'à terme, si la pandémie reste, enfin, si le Covid-19 reste sur longtemps et que le vaccin est prouvé. Les vaccins sont prouvés sûrs, peut-être qu'il va falloir penser à ce genre de choses, ou peut-être que ça suffira, que les gens qui ont souhaité faire le vaccin créeront une immunité de masse et protégeront tout le monde, même ceux qui ne le veulent pas. Mais bon, c'est une question effectivement qui se pose. Et pour la question de l'application en elle-même, elle est, comme on l'avait dit la dernière fois, elle est vouée à exister pendant cette période de transition. À terme, les questions, et ça c'est une mesure assez stricte, l'application disparaîtra et donc la question du traçage, des bases de données, etc., disparaîtra d'elle-même puisque cette application-là n'existera plus, a priori, enfin n'existera plus, ne sera plus en vigueur.
Mais par contre, si je dis pas de bêtises, le certificat vert numérique, il sera pas en fait obligatoire. Hein. Enfin, il me semble, hein, sur la nouvelle que j'avais lue, c'est encore une fois, ce serait finalement un moyen de centraliser un peu toute cette documentation pour pas avoir, on va dire, de paperasse, sachant que les pays locaux auraient toujours en fait le dernier mot vis-à-vis de ce genre de
certificat. Tout à fait.
Oui, c'est ton entrée sur le territoire, effectivement, c'est le territoire qui choisit.
C'est exactement, c'est-à-dire que c'est pour faciliter la chose. Si tu veux que la personne qui rentre sur ton territoire, si tu as enfin réussi à juguler la pandémie sur ton territoire et que tu voudrais faire en sorte que ça ne reparte pas, tu as moyen d'avoir une assurance relative que la personne qui rentre sur le territoire n'est pas porteuse du virus. Et après, libre à toi de ne pas l'utiliser. Tu peux ne pas voyager si tu veux, hein, mais c'est libre à chacun finalement. Donc, il y a des options et de la liberté là-dedans. On réfléchira un jour peut-être à l'aspect philosophique de cette question de liberté et de la mise en danger d'autrui, etc. etc. Mais pas aujourd'hui. Je vais faire une toute petite pause pour vous parler d'un sujet qui, là, met tout le monde entièrement d'accord, c'est Patreon. Je pense que vous ne me contredirez pas. Patreon, c'est une merveille qui permet de financer les créations qu'on apprécie et les créateurs qu'on apprécie, comme par exemple, au hasard, le Rendez-vous Tech. Si vous allez sur patreon.com/rdvtech, eh ben vous pouvez choisir de soutenir l'émission pour, par exemple, 1 euro par épisode, et vous décidez combien vous allez donner, et à la fin du mois, la somme vous est débitée, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez, et c'est comme ça que l'essentiel du financement de l'émission est fait. Et non seulement vous avez, grâce à ce système, le plaisir de soutenir l'émission, mais en plus de ça, vous avez des bonus plutôt cool, comme par exemple un flux privé où vous avez zéro pub, zéro promo. Même cette promo au milieu, eh ben, on l'a fait disparaître. Mais vous avez en plus des petits bonus très sympas, comme par exemple les time codes pour passer d'un sujet à un autre, si vous le souhaitez, en cours d'écoute d'émission. Vous pouvez aussi écouter l'after show. D'ailleurs, pour cet after show, je pense qu'on va parler, on va essayer les after shows à thème. On va parler de la machine qu'on a préférée dans notre histoire. Donc, si vous voulez parler d'Amiga ou de votre premier smartphone ou ce genre de choses, votre ordinateur préféré, on va essayer ça dans l'after show, en plus du fait de discuter de l'actualité peut-être. Donc vous aurez ce bonus aussi dans votre flux privé. Mais vraiment, ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est un moyen de soutenir le Rendez-vous Tech et de faire en sorte que le contenu que vous appréciez puisse continuer. Donc, c'est un petit, comment dire, un petit effort de votre côté. Et si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis quelques mois, on va dire, allez, si vous l'écoutez depuis plus de 6 mois régulièrement et que quand l'émission arrive, vous vous dites, ok, maintenant je vais l'écouter, c'est un bon moment passé dans les transports ou pendant que je fais le ménage. Bah, si ça fait quelques mois, peut-être que il serait intéressant pour vous d'aller regarder du côté de Patreon et de regarder les bonus que peuvent offrir les différents niveaux de soutien. Et non seulement vous serez un soutien actif, mais en plus vous aurez cette fierté. Je parle souvent du Kling Patrick. Qu'est-ce que c'est que le Kling Patrick ? C'est le moment où vous rentrez chez vous, ou alors le moment où vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol à l'entrée, ça fait Kling, et là vous dites oh, il faut que je pense à aller voir sur Patreon. C'est un réflexe pavlovien que j'insinue dans votre cerveau. Et bien là, au lieu de vous dire « il faut que je vois si je dois soutenir », et bien vous vous dites « mais je soutiens Patrick et j'en suis tellement fier ». C'est un moyen de vous faire plaisir, finalement. C'est ça que j'essaye de, j'essaye de vous apporter. Hein. En fait, c'est pour vous que vous soutenez le Rendez-vous Tech. Bon, pour moi un petit peu aussi, il faut être honnête. Donc merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, merci à tous ceux qui décident peut-être aujourd'hui ou demain de le faire. Quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, allez voir sur patreon.com/rdvtech et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Merci à vous tous. Alors, on continue avec les news diverses. On parle un petit peu de pub et de tracking. Google rejoint Apple en décidant de réduire la commission qu'il prélève sur les ventes d'applications pour les développeurs qui ont généré moins d'1 million de revenus sur l'année, et ils passent leur commission de 30 à 15%. Donc c'est vraiment exactement la même chose que pour Apple. Sensor Tower a relevé un chiffre intéressant. Ils nous disent que si cette commission avait été mise en place pour Apple et pour Google, je vais vous passer les détails des chiffres, mais en gros, pour Apple, ça représenterait 2,7% de revenus en moins sur l'App Store, et pour Google, 5% de revenus en moins. Donc en gros, en passant leur commission de 30 à 15% pour les sociétés qui génèrent moins d'1 million de revenus, eh bien, ils disent au revoir à 2,7 et 5% de revenus sur l'App Store spécifiquement, qui ne représente pas non plus l'essentiel de leurs revenus. En gros, ils vont survivre. Mark Zuckerberg a discuté un petit peu dans Clubhouse, dans une salle Clubhouse avec Josh Constantine, et il a dit en gros, avec les nouvelles conditions de traquage, de traçage d'Apple, on va s'en sortir, quoi, ça va aller, ça va pas être trop difficile. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils commencent à voir qu'ils ne vont pas réussir à faire rebousser chemin à Apple et que légalement, ça ne va pas bien se passer. Donc, ils commencent à communiquer le fait que bah, pour eux, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils sont déjà très gros, etc. etc. Et puis, pour cette question de stratégie de Facebook, on a aussi de plus en plus d'indications qui sont en train de recentrer ou en tout cas de proposer, de préparer des propositions très différente de ce qu'on avait avec le flux, le newsfeed, qui était personnalisé, et qu'il se dirige vers une plateforme de publication avec des outils de newsletter, comme le fait d'ailleurs un petit peu Twitter avec ses derniers rachats, mais aussi des outils pour des auteurs pour qu'ils écrivent dans des petits groupes, qu'ils pourraient éventuellement payer eux-mêmes, etc. etc. Donc, une alternative au newsfeed qu'on connaît depuis 10 ans. Donc, voilà pour le groupe pub et tracking. Là encore, je vous laisse la parole. Bon, 15% pour Google, j'avoue que je ne m'y attendais pas, mais peut-être que les préoccupations d'antitrust les poussent à changer leurs pratiques. Et puis Zuckerberg qui retourne un peu sa veste sur l'identification, les protections des utilisateurs chez Apple, c'est intéressant aussi. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Gaël, dis-nous ?
Non, mais écoute, moi je trouve que c'est des nouvelles où tu sens qu'il y a une transition qui est en cours. Pour tous les gros, hein, voilà, Google qui change, ils bougent sur des sujets sur lesquels on les attendait depuis longtemps, ils ont mis le temps, que ce soit Google ou même Facebook, quand ils font des choses qui vont dans le bon sens, on ne peut dire que c'est bien, on ne peut être que positif, et puis on attend que ça, la transition continue. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est des pas intéressants. Que ce soit en termes, bah, pour les développeurs, effectivement, que ça passe à 15%, c'est bien, ça va permettre aux plus petits de pouvoir grossir et évoluer. Ça va aider la Startup Nation, on va dire. et pour Zuckerberg, bah, il n'a pas le choix, donc il est acculé, il faut bien qu'il avance, mais au moins ça avance. Donc, rien de spécial à dire, à part que ça avance, la transition arrive, et c'est bien.
Moi, il y a un truc qui me, on ne va pas dire qui m'inquiète, mais que je note quand même, c'est que ils bougent vraiment quand ils sont forcés, et du coup, ça leur permet de rester en place. Et donc, je ne sais pas si ça veut dire que la transition arrive. Tu sais, c'est que ils font juste ce qu'il faut. Ils sont très intelligents et ils font juste ce qu'il faut pour pas aller trop loin. Et du coup, ça veut dire qu'ils restent là. Donc, moi, c'est plutôt... C'est rare que j'ai une vision, je ne sais pas si c'est négatif, mais je dirais que c'est rare que j'ai une vision négative, mais c'est plutôt cette analyse que j'en
fais. C'est sûr qu'ils ne sont pas proactifs sur ce genre de sujet, et ouais. On s'en doutait, et on les attendait pas là-dessus. Mais au moins, ça réagit, et ça veut dire qu'au moins, on les force, et c'est ça qui bouge. Et ça va peut-être pas assez vite. C'est dommage qu'on ait à les forcer, mais c'est pareil dans tous les domaines. Enfin, si tu regardes les choses sur les grands retailers, la distribution ou la nutrition, ils ne le font que quand le consommateur bouge et quand ils n'ont plus le choix. Donc les choses arrivent quand même. Je reste, laisse-moi rester pour une fois, c'est moi qui suis positive. je trouve que c'est bien et que ça avance. Donc ne t'attends pas pour taper, ça avance, okay. Ça passe.
Non mais c'est vrai,
d'accord, mais bon.
C'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est comme ça partout, y compris dans la distribution, la nutrition, enfin partout. Et j'y avais pas forcément pensé, mais c'est pas faux. Donc est-ce que la tech est différente sur ce point de vue? Peut-être pas, ouais.
Et c'est un peu le même principe, hein, quand on est sur un monopole, en effet, on optimise et on profite au maximum de notre position avant qu'un autre concurrent arrive et fasse bouger les choses et qu'on doit finalement s'aligner. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, que Google a fait un peu la même chose suite aussi à l'annonce d'Apple sur le sujet. Donc, pourquoi pas? Enfin, ça profite finalement aux développeurs et aux éditeurs et in fine, probablement aux consommateurs, je l'espère. Mais ouais, c'est assez intéressant.
Ouais. Oui, c'est que, en fait, moi, ce que je vois, c'est que du coup, ils font ça, et donc tout le monde dit « Ah ouais, c'est bien quand même hein, !» Et Facebook a fini par accepter le fait que le truc d'Apple, il va falloir qu'il arrive, et il gère les histoires de newsletter d'un autre côté, donc il change un petit peu de modèle. Mais c'est toujours Facebook, ils sont toujours aussi énormes. Google, ils sont toujours aussi énormes, ils trustent le marché du smartphone, enfin... Plus ou moins, ça dépend comment on compte, vu qu'il y a Apple à côté, mais c'est vrai que, bon, à côté de ça... La différence, je dirais, c'est que, malgré tout, dans la tech, on a quand même... Enfin, la différence, c'est mon impression, hein, j'ai pas les chiffres précis, ça se trouve, c'est une impression erronée, mais dans la tech, on a quand même ces 5 énormes conglomérats, ou qui ne sont pas des conglomérats, mais ces 5 énormes entités, alors que dans tous les autres domaines, marqué, même je dis ça, mais Unilever, c'est monstrueux. Enfin, je ne sais pas. Il faudrait peut-être faire une étude de, de monopole comparatif dans différents... quasi-monopole comparatif dans différents domaines des différentes industries pour avoir une vision plus claire. Mais j'ai l'impression que dans la tech, il y a peu d'acteurs et peu de mobilité depuis 10 ou 15 ans. Mais bon. Dans, les, dans le et domaine les automobile, par exemple, il y a des 10, enfin, 25 sociétés qui sont... qui existent, qui sont compétitives, donc peut-être pas 25, mais plus que 5, quoi. Pardon, Fred, je t'ai interrompu.
Non, et principalement, du coup, des acteurs étrangers, hein, pour faire le lien avec ta news précédente, notamment sur le fait d'attirer de nouveaux talents et créer des startups. On en a franchement besoin en France et en Europe, et je fais toujours le lien, tu sais, avec, bah, avec Azure, AWS et également Google Cloud, qui sont omniprésents et qui sont, on va dire, les seuls à proposer, tu sais, des solutions de collaboration en entreprise. En Europe, en France, on n'a rien. Je sais que l'État, enfin, il me semble que l'Europe a tenté de créer une forme, pas de structure, mais en tout cas de pousser à ce qu'il y ait un acteur vraiment souverain sur la partie cloud. Il n'en est rien sorti. Mmh. Enfin, rien sorti. On a un retard qui est hyper considérable. Donc,
ouais. Et c'est vrai que c'est des acteurs américains. Je veux dire, les GAFA, ils sont américains, donc il n'y a même pas...
Mais on a aussi les Chinois avec Alibaba. Hein.
Non, bien sûr, mais ils ont moins de présence en dehors de la Chine. Donc, bon. Mais justement, si on peut parler un tout petit peu... Bon, en continuant sur les réseaux sociaux, avec Instagram... qui, et ça, je suis sûr que ça intéresse Gaëlle spécifiquement, puisqu'elle travaille beaucoup. Et
j'ai aimé la façon dont tu l'as présenté, d'ailleurs. C'était très tendancieux.
Écoute, je disais, Instagram drague les moins de 13 ans, effectivement. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans ces mouvements de Facebook. D'une part, ils ont interdit aux adultes d'écrire en privé aux mineurs qui ne les suivent pas. C'est-à-dire que, normalement, sur Instagram, on sait quel âge a l'utilisateur. C'est nécessaire légalement, parce que moins de 13 ans, on n'est pas censé pouvoir utiliser la plateforme. Donc, on sait quel âge ils ont. Et jusqu'à maintenant, il était possible pour un adulte d'envoyer un message privé à un mineur, ce qui, je peux comprendre qu'on se dise, bon, il y a toujours cette barrière un peu floue entre 16 et 18 ans, ou peut-être qu'on est assez adulte pour savoir faire le tri quand on reçoit un message d'un adulte, mais peu importe, Instagram interdit maintenant aux adultes d'envoyer un message privé à un mineur qui ne les suit pas déjà, donc si la personne vous suit déjà, vous pouvez, ce qui semble être un bon compromis, mais surtout, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que il semblerait que Facebook soit en train de travailler sur une version d'Instagram qui soit spécifiquement dédiée aux enfants de moins de 13 ans. Et c'est toujours, il y a toujours plein de choses à prendre en considération, parce que les enfants de moins de 13 ans peuvent assez facilement se créer un compte sur Instagram, et je ne doute pas que beaucoup d'entre eux le font. Et en plus de ça, Instagram et Facebook sont en train de perdre de plus en plus de la jeunesse vers d'autres apps, peut-être plus Snapchat maintenant, mais en tout cas TikTok, c'est sûr. Donc peut-être qu'ils sont en train de créer quelque chose de spécifiquement ciblé sur la jeunesse pour cette raison aussi. Donc il y a tout un tas de raisons qui pourraient justifier cette initiative. Et en plus de ça, je suis tombé sur une autre news qui est liée, qui me paraît très intéressante, qui est l'application Yubo, qui est une application qui est spécifiquement ciblée sur les jeunes pour qu'ils contactent des étrangers. Et alors là, évidemment, vos yeux s'écarquillent, vous vous dites, mais attendez, c'est pour des jeunes, pour des adolescents, pour qu'ils contactent des étrangers, vous commencez à avoir peur de questions de prédateurs et tout ça, mais la philosophie de l'app est vraiment intéressante. Ça vient de deux personnes qui se sont rendues compte qu'on avait beaucoup de solitude, et encore plus en période de pandémie. Ils ont commencé le travail bien avant, mais finalement, l'idée de pouvoir rencontrer dans l'espace numérique des gens qu'on ne connaît pas déjà, ça peut être une opportunité intéressante à de nombreux égards. Et eux sont en train de développer la chose avec l'idée d'essayer de le rendre aussi sécurisé que possible. Et l'application est de plus en plus populaire chez les plus jeunes. Il y a déjà 40 millions d'utilisateurs qui ont moins de 18 ans. Et l'application a explosé, je crois que c'était quelque chose comme 400% d'augmentation cette année. Donc, c'est une application qui pourrait faire peur à la base, mais vraiment l'idée, effectivement, d'aller rencontrer des gens comme on le ferait dans le monde réel, pourrait être intéressante si on réussit à bien le cadrer, quoi. Mais comme je le disais, ça intéresse particulièrement Gaëlle, puisqu'elle elle s'occupe beaucoup de la jeunesse et de l'éducation au numérique. Qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces sujets de moins de 13 ans et sur Instagram, etc.?
J'ai fait mon quota de positif pour les GAFAM avant, donc je vais pouvoir repasser. Ce que ça m'évoque, c'est que pour les moins de 13 ans, en fait, en général, les 11-12 ans qui sont déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur Insta, Facebook, TikTok, qui sont déjà dessus et n'ont pas attendu d'avoir 13 ans pour y être, après, en dessous, 10-11 ans, honnêtement, je n'évoquerai même pas l'inutilité d'être sur un réseau social à cet âge-là. Mais pour ceux qui ont allé 11, on va dire que la cible, c'est les 11-12 ans, puisque c'est eux qui y vont. Honnêtement, je préférais qu'un Facebook s'attelle à mettre toute son énergie à trouver des solutions sur des sujets qui sont en plus tellement d'actualité en ce moment, qui sont le cyberharcèlement, plutôt que d'essayer d'aller chercher et ouvrir une nouvelle cible marketing. Voilà, c'est un peu la problématique aujourd'hui. Elle est vraiment liée. Alors évidemment que les adultes n'aient pas accès aux mineurs et puis ne puissent pas leur envoyer de messages, ça me paraît être une évidence et une fonctionnalité juste absolument nécessaire, même si on sait qu'ils peuvent de toute façon se créer un compte. De toute façon, les vrais prédateurs réussiront. Mais bon, si déjà on limite,
chose qu'on demandait, en fait, qui était un changement qui était demandé depuis longtemps, ou est-ce que c'est un truc auquel on n'avait pas forcément pensé et quand Instagram l'a annoncé, c'était genre « Ah ouais, ok, cool, c'est bien. Je suis curieux. »
Je ne saurais pas te dire si... Enfin, je ne peux pas répondre pour le monde entier, mais je n'ai pas le sentiment que c'était un vrai point. En tout cas, ce n'est pas un point qu'on entend de la part des associations de parents, des écoles, etc. C'était pas un point que j'ai entendu revenir particulièrement. Parce qu'encore une fois, les vrais prédateurs sont bien plus malins et c'est pas ça le plus gros problème.
Qui va
évidemment,
les arrêter,
ça pose non. Mais ça non. Néanmoins, ça reste utile et c'est bien et ça limite et très bien, donc positif. Okay. En revanche, effectivement, le Insta pour les 10-12, on va dire. Voilà, comme je le disais, je pense qu'il y a des sujets qui sont déjà trouvons des solutions sur le cyberharcèlement et apprenons aux jeunes à être sur un réseau social, les bonnes règles de bonne conduite et savoir l'utiliser plutôt que de créer, parce que t'auras beau le faire que pour eux, ça n'empêche que la violence, la haine sera quand même là. Parce que c'est comme ça aujourd'hui que sont utilisés les réseaux sociaux.
D'accord.
J'en profite d'ailleurs pour évoquer qu'il y a une application qui s'appelle Bodyguard, je ne sais pas si tu connais,
pas
si vous
tout.
Connaissez, qui est très bien, qui est d'ailleurs pour les adultes comme pour les enfants, et qui permet justement de limiter qui va en fait censurer pour toi, si tu reçois justement des trolls ou des messages de haine, va les effacer, ce qui fait que tu ne peux pas les voir. Ils ont une version en Italie pour les parents qui peuvent justement aussi être alertés au cas où, donc j'espère que ça va bientôt venir aussi en France, mais en tout cas vous pouvez installer Bodyguard, je vous le recommande très fortement. J'ai pas d'action hein, mais je les trouve très bien.
D'accord, c'est bodyguard.ai, Stop Haters Online. C'est un truc qui te...
T'installes ça sur ton téléphone, exactement, et après tu oublies cette application.
Mais tu peux l'installer sur un iPhone aussi ou c'est juste Android?
Oui, non, sur un iPhone, je l'ai installé, j'ai un iPhone.
D'accord, oui, comme je sais.
Désolé Fred, j'ai un iPhone aussi. Non, tu l'installes et tu peux en fait le connecter en fait à tes comptes de réseaux sociaux, Twitch, enfin voilà. Okay. Il les fait pas tous, mais il fait aussi Twitch notamment, et ça limite en fait les messages haineux, violents.
D'accord.
Donc pour moi, c'est ce genre de fonctionnalité que je préférerais voir venir plutôt que d'aller chercher un réseau social pour les 11-12 ans.
Et du coup, le réseau Yubo, est-ce que tu en avais entendu parler, qui connecte les... Alors là, on ne parle pas forcément des moins de 13 ans, hein, mais c'est les adolescents pour leur donner un espace de rencontre, d'amitié. Hein, ce n'est pas une question... C'est pas plus que ça. Ça t'évoque le même type de... c'est pas forcément la peine ou qu'est-ce que tu penses ?
Alors, est-ce que c'est la peine ou pas la peine ? C'est compliqué parce qu'il y a déjà effectivement beaucoup d'applications qui existent. Après, quand tu lis les articles sur le sujet, effectivement, tu te demandes comment ça va être utilisé. Ça commence à y avoir des polémiques sur le sujet en disant que c'est le Tinder des adolescents. C'est vrai que ça a l'air d'être assez critiqué pour le moment, puisque ça a l'air d'être assez sexualisé en fait comme application, visiblement. Okay. Des articles que j'ai pu lire sur le sujet.
Ok, bon bah tu me détruis
voilà.
Mes espoirs.
Donc, pour l'instant, désolé. Visiblement, ouais, il y a beaucoup d'histoires de nudes qui passent. Enfin bon, bref, c'est ce que j'ai pu lire. Après, je l'ai pas utilisé, je l'ai pas testé.
D'accord,
mais c'est juste au travers des articles lus.
Ok. Très bien. Ok, bah écoute, je le note, donc le monde est un peu plus sombre que je ne le pensais, malheureusement.
Désolé.
Bon, écoutez, on va partir vers des contrées beaucoup plus heureuses en parlant... Ah non, alors je vois que le sujet suivant, c'est Donald Trump. j'ai une série de petites news en pagaille avec Donald Trump qui aurait signalé, en tout cas son équipe, qu'il serait en train de prendre des contacts pour créer son propre réseau social. On n'a pas plus de détails que ça, mais c'est une idée qui avait été évoquée il y a un certain temps. Depuis son départ, enfin son éjection des différents réseaux sociaux, il serait en train de préparer son retour. Ça pose une question intéressante quand même, parce qu'il y a différents réseaux dont on avait déjà parlé, qui se prétendent sauvegarder la liberté de parole, souvent et généralement pour camoufler le fait de dire des choses qui ne sont pas vraiment acceptables ailleurs. Je garde mes euphémismes. Il y a d'ailleurs un article assez sympa, assez bien fait sur Numérama, que je mettrai dans la newsletter, qui liste un petit peu ces... sociétés et ces réseaux de l'alt-tech. Mais là où ceux qui existent aujourd'hui, à mon avis, auront du mal à perdurer parce qu'il y a un problème de monétisation qui se pose toujours au bout d'un moment, en particulier pour les applications, pour les réseaux vidéo, celui de Donald Trump pourrait être simplement le porte-voix de Donald Trump. Mais bon, on en jugera un petit peu plus quand si ça se confirme. Mais il sera intéressant, au-delà de la question politique qu'on pourrait discuter, il sera intéressant de voir ce que ça donnera. Parce que est-ce que Donald Trump, qui parle uniquement à ses partisans qui seront allés se créer un compte sur ce réseau, sera vraiment le Donald Trump qu'on a connu pendant 4 ans et même un peu plus, là où il avait un porte-voix un peu plus général sur Twitter. Ça sera une question à laquelle on aura peut-être une réponse bientôt.
On aura très probablement aussi des trolls qui viendront s'y connecter un peu à la manière de Twitter, j'imagine bien. Mais effectivement, là, Trump veut regrouper en tout cas sa communauté. Et c'est vrai que ça reste très, très, très inédit. Et comme tu dis, on verra comment lui va se comporter, quel message en fait il soutiendra. Mais on se doute bien que c'est avant tout politique.
Ah bah évidemment, ça je pense que lui, on sait très bien comment il va se comporter. La question c'est quelle portée est-ce que ça a quand il ne parle qu'à sa base ? Et ensuite, il y a même une autre question, au-delà de la question politique générale, il y a une question de soutien personnel. J'imagine qu'il y a une entreprise financière pour lui qui va essayer de monétiser sa personnalité, quoi. Wikimedia, tiens, un autre sujet intéressant, ils sont créés Wikimedia Entreprise, parce que vous savez que Wikimedia, la fondation Wikimedia, fonctionne uniquement par donation. D'ailleurs, je fais un don mensuel à Wikimedia et je vous encourage à chercher des causes, tech ou non, auxquelles faire ce genre de contributions aussi. Mais Wikimedia a créé Wikimedia Entreprise et c'est un service qui va enfin monétiser l'accès à Wikipédia pour les entreprises, des entreprises comme Google, Apple ou d'autres qui utilisent les données de Wikipédia pour leurs services, vont devoir enfin payer. Alors, ça va être établi différemment. Ça va être déterminé dans quelques temps, la manière dont ça va fonctionner. Mais je trouve que, évidemment, c'est une bonne chose. Ça ne va pas représenter forcément l'essentiel de leurs revenus. Et je pense que ça ne va pas changer leur philosophie. Mais je pense que c'est intéressant à noter tout de même.
Wikimedia, c'est bien la banque d'images hein, de Wikipédia, hein. Enfin, en d'autres termes.
Alors, Wikimedia, c'est la fondation qui gère Wikipédia, Wikitionnaire, etc. C'est voilà. L'ensemble okay. De tout l'univers Wikipédia. Donc, c'est au niveau corporate de Wikipédia qu'ils sont en train d'établir d'autres vecteurs de financement. Mozilla a suggéré une idée qui me paraît hyper intéressante. C'est de modéliser un programme de recherche de billets d'intelligence artificielle sur ce qu'on a déjà dans le domaine des recherches de bugs, les bug bounty en fait. Ce qu'il suggère, c'est de créer des programmes de AI bias bounty comme on a des programmes de bug bounty. Donc, rechercher des billets qui sont souvent des billets racistes ou sexistes dans les algorithmes d'intelligence artificielle parce que le matériel sur lequel ils sont créés, sur lequel ils sont entraînés, sont généralement biaisés également parce qu'ils viennent du monde réel et qu'on a plus de données d'une certaine nature. Et donc, à mon sens, une idée très constructive. C'est vraiment l'idée de dire, OK, on a ce problème, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre? Eh bien, un système qui a prouvé son efficacité dans un autre domaine et qui pourrait être appliqué ici serait un système de... chaque société qui a des algorithmes importants basés sur de l'intelligence artificielle disent, si vous trouvez un biais de telle ou telle nature, on va vous payer un petit peu. Et ça encourage, comme dans le domaine des bugs et de la sécurité informatique, pousser des gens à essayer de trouver ces bugs ou ces biais. J'ai trouvé ça très intelligent et j'espère que ça va être mis en place. Le HomePod d'Apple, tenez, faisons un petit titre un petit peu buzzy, là, un petit peu putaclic. Saviez-vous que votre HomePod peut vous espionner et savoir quelle température il fait chez vous ? Non, tout le monde s'en fout de la question de la température, peut-être. On a découvert que les HomePod mini avaient des capteurs de température et d'humidité qui ne sont pas activés, donc qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Mais peut-être qu'à terme, ça pourrait rentrer dans le cadre d'une initiative un peu plus large de santé connectée du côté d'Apple qui aurait déjà installé un certain nombre d'HomePod mini avec ces capteurs. Je ne sais pas si c'est le truc le plus révolutionnaire de la Terre, mais je trouve que ça pourrait être intéressant s'ils vous permettent d'avoir je ne sais pas si c'est un contrôle de la qualité de l'air non plus, quand c'est seulement avec la température et l'humidité. Mais ça peut servir à, je ne sais pas, des trucs.
C'est peut-être pour nous contrôler, on ne nous dit pas tout.
Pour nous quoi, pardon, Gaëlle ?
Je dis pour nous contrôler, on ne nous dit pas tout.
Oui, non mais c'est ça, contrôler la température de... Ah, je sais.
Ils vont pouvoir... Notre température et notre humidité.
Non, mais c'est chez nous. C'est-à-dire que comme ils ont notre localisation, ils savent où on est, on connaît la température de l'appartement et donc ils savent le différentiel entre la température extérieure et la température à l'intérieur. Ils savent à quel point on utilise de l'énergie pour chauffer trop chez nous et contribuer au réchauffement climatique. 19 degrés dans la maison, les enfants. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, Apple va pouvoir nous... tu tout à coup, t'es bien content de ne pas être chez Apple, hein, Fred ?
C'est ça.
Et on me pose la question assez judicieusement dans la chatroom pour la prise de température corporelle. Comment on fait avec le HomePod ? C'est une question tout à fait légitime.
Et en Bluetooth.
Surtout pertinent en période de Covid.
Oui, non, mais exactement, c'est ça. Mais bon, ceci dit, baisser la température d'un degré chez soi, ça peut faire beaucoup. Et nous qui sommes à la campagne avec pas de chauffage central, je peux vous dire qu'on en est très conscients. Il semblerait que l'une des agences fédérales américaines et le MIT soient en train de développer des prototypes de dollars numériques. Et ça, je trouve ça fascinant, parce que on n'est pas dans le domaine des crypto-monnaies, hein. On est dans le domaine, j'ai épuisé ma lecture de Bloomberg, donc je ne peux plus relire cet article, mais on est vraiment dans le domaine des monnaies numériques et pas des crypto-monnaies. C'est des monnaies qui sont l'équivalent d'un billet qui est émis par une banque centrale et pas un truc décentralisé. Mais c'est intéressant parce que désormais, tous les grandes entités financières du monde s'intéressent aux monnaies numériques. As well they should, je crois. C'est important de s'y intéresser et de développer des systèmes maintenant, quand on n'est pas encore dans un domaine où c'est vraiment indispensable, où on n'est pas en retard, quoi. Et il faut s'y intéresser maintenant. On avait déjà parlé des initiatives similaires du côté de la Chine et du côté de l'Union européenne. C'est quelque chose d'important, je crois.
Donc théoriquement, on aurait vraiment de l'unicité de la monnaie qui pourrait être contrôlée, si je comprends bien. Enfin, à toi de me dire aussi, Patrick. Et finalement, on pourrait pas peut-être s'amuser à faire des faux ou ce genre de choses. Enfin, en théorie, ça pourrait passer.
C'est-à-dire que ça serait tout simplement une monnaie, une monnaie pas imprimée, mais émise. Voilà, c'est le terme que je recherchais. Merci, cerveau. Une monnaie émise par une banque centrale, mais qui serait numérique, plutôt que d'être physique. Au lieu de t'imprimer un billet, ils te créent un euro numérique ou un dollar numérique. Et on est encore à l'état de prototype, hein. Mais donc, ça ne changerait rien du tout, surtout qu'aujourd'hui, on utilise de moins en moins de monnaie physique. Moi, personnellement, je n'ai plus jamais de billets dans mon portefeuille. C'est peut-être une erreur, d'ailleurs, parce que le jour où l'apocalypse des zombies arrive, il faudra de la monnaie. Encore que non, ça ne vaudra plus rien. Donc, bon, peu importe, il vaut mieux empaqueter les rouleaux de papier toilette et les stocker chez soi. Mais c'est simplement une monnaie qui serait numérique au lieu d'être physique, mais ça fonctionne exactement de la même manière que la monnaie, et je dis physique avec des guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, toute la monnaie physique ou presque est numérique. Donc, c'est simplement ça. À propos de monnaie, tiens, des rumeurs persistantes, ou en tout cas des rumeurs récentes, sembleraient indiquer que Microsoft serait en discussion avec Discord pour racheter Discord pour 10 milliards de dollars. Alors, c'est des rumeurs, on a des sources qui sont un petit peu incertaines encore, mais Microsoft qui rachèterait Discord, ça serait hyper intéressant, dans la tech bien sûr, et dans le jeu vidéo en plus. À quoi ça pourrait leur servir, c'est une grande question, mais ça serait une acquisition vraiment intéressante pour Microsoft, surtout dans le contexte de son Game Pass, évidemment. Vous pensez que c'est possible, ça ? Vous voyez une utilité que Microsoft aurait pour Discord ? Ils ont déjà Teams, ils ont déjà plein de choses. Je pense qu'on peut se poser la question.
Je pense que ce que tu disais par rapport au Game Pass, ou en tout cas par rapport à l'univers du jeu vidéo, ce serait peut-être un moyen intégré directement à toute l'offre Xbox, de pouvoir, tu vois, lancer des parties dans une room spécifique, tu vois, créer typiquement ce que tu as fait notamment pour le rendez-vous tech, mais à ce qu'on lance un jeu tous ensemble sur un autre device, j'en sais rien, après je suis pas non plus un spécialiste Xbox sur le sujet, mais ça pourrait être effectivement intégré pour faire l'équivalent qu'on a sur PlayStation, si je dis pas de bêtises, c'est j'ai oublié. Les groupes, tu sais, pour pouvoir discuter.
Oui, il y a des groupes, mais ces technologies existent sur le Xbox Network aussi et sur le PlayStation Network. Il s'appelle le Xbox Network maintenant. Mais c'est vrai que, par exemple, intégrer Discord directement à tout l'écosystème Xbox pour faciliter le fait de lancer des jeux de l'un à l'autre facilement avec le groupe dans lequel on est déjà dans Discord, ça serait intéressant. Il pourrait faire un tout petit peu de marketing en plus. Il pourrait intégrer l'offre Nitro au Game Pass, l'offre Discord de Nitro. Et puis, Discord s'étend au-delà du jeu vidéo depuis un bon moment, donc il y aurait une opportunité là-dedans aussi. Peut-être intégrer Discord à la console, de manière à ce que nos amis et nos groupes qui sont déjà constitués sur Discord soient portés sur l'écosystème Xbox et donc fluidifier tout ça. Oui, il y a des opportunités, c'est sûr.
Et puis, ils sont pas à l'abri de combiner Teams et Discord. Hein.
Ça, oui, ça me paraît quand même. Tu crois ? Moi, ça me paraît quand même un peu inspiré l'un de l'autre, peut-être, mais combiné, ça serait une machine à gaz, je crains.
Non, ils en tueront un, en tout cas.
Je sais pas. Hein. Ouais. Moi, je suis pas sûr. Moi, je crois que les deux ont des usages différents. Teams, c'est vraiment très professionnel. Discord, ou peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment utilisé Teams, en fait. Donc, j'ai juste l'expérience de Slack qui, à mon sens, était une utilisation un peu différente. Mais...
Ouais, mais tu vois, Discord, tu commences à l'utiliser à titre professionnel aussi.
Donc, peut-être, ouais, c'est vrai. Peut-être, peut-être. On nous demande ce qu'est Nitro, c'est vrai que certains d'entre vous ne savent peut-être pas. Nitro, c'est un abonnement à Discord qui vous permet de débloquer certaines fonctionnalités. En gros, le Discord est gratuit et Nitro vous débloque des petites fonctionnalités qui ne sont pas très très importantes pour être honnête, mais qui sont sympas et qui financent le service. Ça pourrait être une possibilité pour Microsoft. D'ailleurs, à propos de travail pendant la pandémie, Zoom a annoncé qu'ils avaient mis en place un kit de développement pour que d'autres sociétés puissent intégrer le système Zoom et les meetings Zoom à leurs applications. C'est hyper intéressant pour moi, ça prouve à quel point Zoom a bien géré leur explosion pendant la pandémie, parce que pour moi, c'est vraiment, on doit déterminer un grand gagnant de cette pandémie dans le domaine de la tech. Bon, alors, il y en a plein, mais un qui était peut-être un petit, qui est devenu gros, c'est Zoom. Et là, ils continuent à gérer leur expansion de manière très intelligente, je trouve. Donc, peut-être d'un écosystème Zoom qui s'étend dans d'autres applications. Je trouve ça assez intéressant.
C'est vrai que Zoom a eu cette stratégie d'opportuniste, en tout cas. Enfin, moi, je l'ai vécu en live parce que j'utilise aussi Teams et Google Meet en parallèle. Et le reproche de départ, c'était évidemment que la solution Zoom ne soit pas tant sécurisée que ça. Mais c'est avec le temps, enfin, ils ont réussi à gagner rapidement en notoriété, en utilisation de l'application, pour que derrière, ensuite, ils comblent en fait ces problèmes de sécurité. Donc ça a été en fait effectivement un bon moyen d'accélérer hein, cette période de remote working, et le coupler via des API à d'autres applications, ouais, c'est la porte ouverte en fait aux développeurs d'intégrer Zoom dans quelconque application. On peut imaginer vraiment plein de choses. Ouais.
Je suis assez d'accord. Ouais, ils ont géré ça, et la question de la sécurité qui était un gros problème au tout début, qu'ils ont finalement, on se rend compte, dont ils n'ont pas trop souffert au final parce qu'ils ont bien géré. Un truc qui fait souffrir, et ça va être notre dernier sujet, un truc qui fait souffrir une industrie dont on vous parlait il y a quelques temps, c'est l'industrie automobile, qui souffre de l'absence de puces qui sont trop demandées pour suivre la demande. En fait, on n'arrive pas à en fabriquer assez. Et donc, l'industrie automobile a été impactée. On a un exemple, le dernier exemple en date, c'est des voitures de General Motors qui vont être construites avec des modules de régulation et de gestion du fuel, enfin de l'essence, de l'alimentation du moteur, qui seront désactivés, ou en tout cas qui n'y seront même pas parce qu'ils n'ont pas les puces pour faire ça. Et donc, la consommation de ces véhicules va augmenter. C'est des pick-up, généralement, en plus, si je ne me trompe pas, qui vont du coup souffrir de consommation accrue à cause de cette absence, de ce manque de puces. Ils espèrent que ça ne va pas durer trop longtemps, mais ils ont été contraints, entre guillemets, de choisir de ne pas intégrer ces modules pour pouvoir continuer à fabriquer, puisqu'ils n'en ont pas assez. C'est un petit peu malheureux, et on aimerait que ça ne soit pas le cas, mais voilà, c'est une des conséquences de la pénurie de puces dont on vous disait il y a quelques semaines qu'elle touchait d'autres domaines que simplement la tech. Et ben voilà, c'est un exemple, encore un exemple. Et c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné dans ce petit voyage, dans ce petit picorage de News Tech. Avant de se quitter, j'aimerais que vous nous rappeliez où on peut vous retrouver. Commençons par Fred, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, on va dire. Fred, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Bah écoutez, alors sur le site directement chromebooklife.com ou bien sur Twitter, @chromebooklife, tout simplement. Merci encore, Patrick, pour l'invitation. Pour cette
Mais je
invitation.
T'en prie, un vrai plaisir. Le lien vers tes comptes Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Merci, Fred. Et Gaël, où te retrouve-t-on ?
Et moi, toujours sur coude.fr. Donc, coude, c'est COOD. Et les comptes, en général, c'est @coude_fr, un peu partout, sur tous les réseaux que vous connaissez. Voilà. Merci encore, Patrick.
Merci à toi aussi, Gaël. Coude, et on mettra le lien vers ton compte Twitter à toi dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour des vidéos de jeux vidéo ou sur Twitch pour les lives des émissions qu'on enregistre en live, évidemment, avec une chatroom fort sympathique. Et vous pouvez aussi soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Vous le savez, vous avez le lien dans les notes de l'émission et c'est le moyen de soutenir l'émission. J'en parle souvent, mais c'est vraiment important. C'est comme ça que l'émission est financée dans son immense majorité. Donc, il est important que les auditeurs prennent cette décision, passent ce petit pas si vous appréciez le contenu que nous produisons. Donc, patreon.com/rdvtech. Et l'un des bonus que vous avez, il y en a plusieurs, mais l'un des bonus, ça sera l'after show qu'on va enregistrer maintenant avec des membres de la communauté. Vous pourrez l'écouter dans votre flux privé et je pense qu'on va parler alors peut-être un petit peu de l'actu, mais aussi on tente le sujet de l'after show avec votre machine préférée de votre histoire. Je sais qu'on est un petit peu plus âgé que la moyenne des 13 ans d'Internet, donc peut-être qu'on a ce genre de souvenirs ici. On va plonger un petit peu dans la nostalgie. Les auditeurs de l'after show pourront entendre cette petite discussion sympathique et un peu plus détendue. Si vous voulez en profiter, vous pouvez devenir patriote sur patreon.com/rdvtech. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous ne faites pas partie des patriotes. Ciao, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.